au 99.1-88.9-CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mardi 2 septembre, j'espère que vous avez passé une belle saison estivale. Ici Claude Fournel, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour Lanaudière PM où on scrute à la loupe ce qui a retenu l'attention dans l'actualité au cours de la journée. En ouverture d'émission, on va vous dire, on a appris ça dans les dernières heures, vraiment Legault là, qui met fin au projet Northvolt. C'est un communiqué qui a été publié par la ministre de l'Économie et de l'Innovation, l'énergie à Christine Fréchette, qui indique que l'entreprise n'a pas présenté de plan satisfaisant à l'égard des intérêts québécois. Il faut rappeler là, que le gouvernement veut récupérer un maximum de son investissement qui est de 510 millions de dollars, mais que les sommes perdues là, s'élèvent à 270 millions de dollars. Bon, paraîtrait que le promoteur, celui qui avait vendu le terrain, ben, voudrait le racheter pour 210 millions. Ce sera à suivre, mais bon, Northvolt, là, on met un trait là-dessus. Je trouve ça un petit peu drôle parce que ça arrive en même temps que certaines nouvelles de la commission Galant aujourd'hui. Bon, à l'émission, on aura l'occasion de retrouver Jacques Plante aujourd'hui. Ouais, on va parler de l'état pitoyable de nos routes dans Lanaudière. Notre analyste politique Mathieu Bélanger sera là. On aura l'occasion de parler de l'implantation à Calgary là, du bureau des grands projets. Guillaume Tremblay avec nous, maire de Mascouche. Il sera question du domaine seigneurial. Mais tout d'abord, pour lancer l'émission de personnalité, fort connue dans la région. Je parle de Véronique Yvon, ex-députée provinciale de Joliette, qui était à l'inauguration du nouveau centre de soins palliatifs de Lanaudière, un projet pour lequel elle a travaillé. Marie-Pierre Poulin a eu l'occasion de la rencontrer pour discuter avec Mme Yvon là, de certains autres projets pour lesquels elle est très attentive. On écoute l'entretien.
Je suis vraiment contente de voir que des efforts de plusieurs années aboutissent, bien sûr, pour un dossier qui m'a tellement tenu à cœur quand j'étais députée. Je me souviens des premiers balbutiements avec différents comités citoyens, avec des gens qui ont voulu, là, à partir de la base, porter cette philosophie-là des soins palliatifs, d'une maison de soins palliatifs vraiment dédiée. Donc, le projet a connu quelques changements au fil du temps. C'est devenu vraiment un partenariat avec le CIS de Lanaudière. Un nouveau modèle avec un pavillon. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est l'aboutissement de beaucoup, beaucoup d'efforts. Une conviction profonde que j'avais, des citoyens qui se sont mobilisés, des gens qui ont embarqué dans le train, le mouvement des jardins, des mécènes, des gens qui ont contribué. Donc, je pense que c'est un bel effort collectif. Puis pour quelqu'un qui a vraiment porté la loi sur les soins de fin de vie, c'est sûr que j'avais toujours un petit pincement au cœur que notre projet de maison n'aboutissent toujours pas, parce que je pense que c'est vraiment important que le nord de Lanaudière puisse avoir une maison, un pavillon comme ce qui est inauguré aujourd'hui. Donc, pour moi, ça a beaucoup de sens.
Puis est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres régions qui devraient s'inspirer de ce projet-là, justement?
Bien, en fait, on va voir. C'est ça qui est intéressant. On va voir comment ça se vit, parce qu'en fait, la grande nouveauté, en quelque sorte, c'est que c'est affilié vraiment. C'est le CIS qui en prend la gestion complète. Donc, ça fait en sorte que c'est pas un OBNL, c'est pas des levées de fonds à chaque année. Oui. C'est comme si ça s'est fait une fois pour pouvoir construire la bâtisse et tout ça, mais qu'ensuite la gestion va être moins communautaire, plus du CIS. Je pense que ça va être intéressant de suivre l'évolution de ça, de voir quelles sont les différences, est-ce que la philosophie est intacte. Mais de ce que je comprends, c'est vraiment ça qui les a guidés, c'est d'avoir une philosophie exactement comme les maisons de soins palliatifs. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la démarche puis de l'esprit.
Oui. Là, ça fait déjà 10 ans que la loi sur l'aide médicale à mourir a vu le jour. Et là, avec le recul, est-ce que vous êtes toujours d'avis, en fait, que le Québec est un peu précurseur là-dedans?
Oui, je pense que le Québec peut être fier parce que c'est vraiment une réforme, la loi sur les soins de fin de vie, l'introduction de l'aide médicale à mourir qu'on a fait collectivement. Puis moi, je crois beaucoup dans ces démarches-là. Ça a vraiment été une démarche ancrée dans le dialogue social, transpartisane entre les partis, mais beaucoup, beaucoup tournée vers l'implication des citoyens, des ordres professionnels. Donc, on a fait une vaste démarche de consultation publique, de dialogue. Puis je pense que c'est ça qui fait que quand ça a abouti, on s'est donné du temps avant. Puis quand ça a abouti, le consensus, il était encore plus fort qu'à l'origine. Et c'est ce qui fait que je pense que ça crée de la confiance pour que les gens envisagent ça. L'autre chose, je pense, qui a aidé beaucoup, c'est que l'aide médicale à mourir, c'est pas quelque chose de désincarné. C'est quelque chose qui est dans un processus, un continuum de soins de fin de vie. Puis on a inscrit dans la loi un droit aux soins de fin de vie, y compris les soins palliatifs. Donc, les soins palliatifs sont absolument importants parce que la majorité des gens, ils vont avoir des soins palliatifs, ça va bien aller. Mais pour les gens pour qui ce n'est pas suffisant puis que les souffrances ne sont pas parfaitement endiguées puis calmées, bien, il y a cette option-là supplémentaire. Mais il ne faut pas jamais le voir en opposition. C'est vraiment un continuum.
Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des améliorations, qu'il y a des trucs qui restent à faire? Hein, pour...
Bien, en fait, c'est sûr que je pense qu'il faut continuer à travailler toujours sur un meilleur accès aux soins. Mais ce droit-là qu'on a consacré dans la loi a eu des effets. Nous, on avait fait des investissements à l'époque dédiés pour la première fois pour les soins palliatifs. Là, on voit aujourd'hui, bon, des nouveaux lits après des années de mobilisation dans la région. Donc, je pense que ça, c'est bien. Pour ce qui est de l'aide médicale à mourir, ben, le débat s'est continué. On a vu l'année dernière qu'il y a une nouveauté qui est apparue, qui est la demande anticipée d'aide médicale à mourir. Donc, ça aussi, c'est un gage, je dirais, de plus grande sérénité pour les gens. Donc, je pense que l'important, c'est quand il y a des questions qui se posent ou des nouveaux enjeux, c'est qu'on les aborde de manière transparente, toujours dans un esprit de dialogue avec la population.
Et là, c'est mardi que Pax Habitat a fait son annonce de une nouvelle résidence là, étudiante qui va être dans le monastère. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on devrait, mettre plus en place? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée?
Oui, moi, je trouve que c'est une idée extraordinaire. En ce moment, dans mes fonctions, maintenant à l'Université de Montréal, je travaille beaucoup, beaucoup sur la cohabitation intergénérationnelle comme réponse à la solitude, à l'isolement social. Puis, ce qu'on voit dans la science, dans les recherches, c'est qu'il y a deux moments dans la vie qui sont des moments de transition vraiment importants. On est plus enclin à vivre la solitude. C'est quand on est des jeunes adultes, puis on est beaucoup de transition, changement de type d'études ou accès au marché du travail. Puis même chose pour les aînés qui vont prendre leur retraite, vont des fois vivre des deuils, des changements dans leur vie, des questionnements. C'est des moments plus enclins à vivre la solitude. Et donc, de réunir deux, je dirais, cohortes de personnes dans nos sociétés qui ont plus de risques d'en vivre, mais en leur faisant vivre la richesse, la cohabitation, de pouvoir s'apporter mutuellement beaucoup de choses. Les jeunes peuvent apporter aux personnes jeunes depuis plus longtemps, mais les aînés peuvent aussi apporter. Puis c'est ça, c'est la première... Moi, je suis tellement fière de Pax Habitat. Je les ai invités, d'ailleurs, à un colloque au mois de juin dernier, parce que c'est un modèle unique. C'était déjà unique, la philosophie de Pax Habitat, déjà avec le CPE, intergénérationnel, tout ça. Mais là, vraiment, en incluant les étudiants, moi, c'est le genre d'idées et de projets auxquels je réfléchissais quand je pense en termes de politique publique. Oui. Donc là, de voir que ce laboratoire-là va se vivre à partir de l'année prochaine à Pax Habitat, je trouve ça extraordinaire. Je suis très, très fière de Joliette.
C'était l'ex-députée de Joliette, Véronique Yvon, qui participait à l'inauguration du nouveau centre de soins palliatifs de Lanaudière. Marie-Pierre Poulin s'est entretenue avec elle. Dans un moment, le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, avec qui il sera question du domaine seigneurial.
Ici Valérie et Caroline
de l'équipe immobilière Les Filles du Nord.
Pour nous, chaque transaction est avant tout une histoire. Celle d'un couple qui rêve d'une maison en campagne, d'une famille qui cherche l'espace idéal pour grandir ou encore un investisseur prêt à bâtir son avenir.
Avec Les Filles du Nord, vous obtenez plus que des clés. On construit des ponts entre vos rêves et la réalité. Grâce à notre expertise, chaque étape est claire, chaque détail est pris en main et surtout, chaque client est écouté, compris et accompagné.
Que vous souhaitiez vendre ou acheter, contactez les Filles du Nord de RE/MAX Prestige par téléphone au 438-341-4663 ou directement sur leur page Facebook Les Filles du Nord Équipe Immobilière.
Elle est de retour, plus conviviale et solide, avec tout le contenu de votre radio. L'application CFNJ sur Android et Apple.
La coopérative funéraire de Matawinie-Montcalm propose des funérailles personnalisées à l'endroit de votre choix, dans le respect de vos croyances et de votre budget. Avec flexibilité et bienveillance, 450-886-3763
et 450-839-3450.
Ménage Providence, votre partenaire de confiance pour une propreté sans bon sens. Vous rénovez? On nettoie. Après construction ou rénovation, confiez-nous le ménage et profitez de votre espace sans souci. Suivez-nous sur Facebook et appelez Ménage Providence au 450-750-9912. Oui, 450-750-9912.
Vous avez des nouveaux services à offrir, un talent à partager, des conseils à donner, des chiens à promener, des massages à donner, des prothèses à fabriquer. Vous avez une bonne idée, vous voulez vous lancer. Informez-nous, on le fera savoir. Venez vous faire voir. Visitez notreentourage.ca pour voir.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Sainte-Marceline-de-Kildare, La Noraine, Saint-Damien, Raden,
CFNJ, 99.1-88.9.
Les chansons américaines, on est bien capable de s'en passer.
La Naudière PM, affaires municipales.
Il est 16h16, un peu moche, mais faute d'intérêt de la part des gouvernements supérieurs. Il y a la ville de Mascouche qui a quand même décidé d'aller de l'avant avec un projet un petit peu moins ambitieux là, pour le développement du parc du domaine seigneurial. On parle plus d'un complexe hôtelier comme on avait prévu au départ, mais selon le maire Guillaume Tremblay, ce sera tout de même un legs important qui découle des fêtes du 275e anniversaire de Mascouche. Un entretien qui a été mené par notre collègue Régent Turgeon, qui est de retour cette saison dans la Naudière PM.
Bien, écoutez, très fier, beaucoup d'événements, des activités dans chacun des quartiers, dans les quatre coins de Mascouche. On a eu des activités un peu partout à la place publique. On s'est promené sur le territoire, on est venu bonifier nos grandes activités, que ce soit l'Octambule, la fête nationale d'ailleurs. Donc, c'est les deux grandes choses que j'avais le goût de vous parler, c'est les deux grands événements qu'on a fait, que ce soit la fête nationale avec les trois accords ou le show de clôture avec Sale Barbe. Permettez-moi de remercier l'ensemble des intervenants, les bénévoles, les employés municipaux qui ont rendu possible, puis finalement la population de Mascouche, parce qu'on me dit que bon an, mal an, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de grands incidents.
Pas d'incident, mais il y aura un legs qu'on veut laisser à la mémoire de la ville et à ses citoyens, un dossier particulier, le domaine seigneurial. On le voit comme un legs. Comment on voit ça?
Bien, tout d'abord, le premier legs qu'on a donné, c'est la plantation d'arbres. Encore une fois, remercier la population. On parle de 3500 arbres qui ont été plantés sur l'ensemble du territoire de Mascouche sur des terrains privés. La ville a offert ces arbres-là aux citoyens. Il y a eu une super de belle mobilisation puis une belle participation. Puis le deuxième legs qu'on a annoncé justement au show de clôture, c'est que la ville de Mascouche a pris à bras-le-corps le projet du domaine seigneurial. Donc, à l'intérieur du... on va garder des bâtiments, tout le patrimoine. On va bien sûr en prendre soin, conserver une portion des bâtiments pour en faire chalet d'accueil, mettre par exemple des skis de fond, des bicycles de montagne. Donc le but, ça va être vraiment de rendre ce site-là vraiment attractif. Et de l'autre côté, vous allez avoir l'autre côté de la rivière, c'est 4 km carrés de forêt qu'on va donner possession aux citoyens de Mascouche. C'est plus gros que le parc du Grand Coteau. Puis moi, quand je me promène à Mascouche, puis je vois autant de jeunes, de familles au parc du Grand Coteau, je me dis que le plus grand legs qu'on peut donner aux familles de Mascouche, c'est d'avoir des espaces verts comme celui-là. Et ça va être apprécié, j'en suis certain, de la part des citoyens.
Mais le fameux domaine seigneurial, ça donne lieu à plusieurs péripéties. C'était pas ce qu'on avait convenu au départ ou ce qu'on voyait, mais ça a évolué ces dernières années.
Ça a évolué, puis on a grandi avec le projet, c'est le cas de le dire, puis tout est une question de financement. Donc, on a grandi parce qu'on n'avait pas eu de financement des paliers supérieurs. Et quand on regarde l'état de situation aujourd'hui, bon an, mal an, comme je vous l'ai dit tantôt, on a décidé de reprendre le dossier à bras-le-corps. On aurait pu faire comme d'autres paliers de gouvernement, puis d'attendre qu'il tombe, puis de le laisser tomber. Nous, on a décidé de prendre ce projet-là à bras-le-corps, puis on va le faire un projet mascouchois à la grandeur de ce que Mascouche, on est capable de se payer, très certainement. On fera pas un projet de 50 millions, mais ça va être un projet à quelques millions de dollars, mais on va conserver les bâtiments, faire nos sentiers, puis on va essayer d'aller chercher des subventions à gauche et à droite, mais ça va être un projet de plus petite grandeur, mais à la grandeur, qu'est-ce que Mascouche peut s'offrir?
Est-ce que ça exclut d'emblée toute participation d'entreprises privées là-dedans?
Mais il y a déjà une fondation qui a été mise de l'avant. D'ailleurs, la fondation du domaine seigneurial et tous les concessionnaires automobiles de Mascouche donnent 10 $ par véhicule neuf vendu. Depuis environ 7-8 ans, on est rendu à environ 1 million de dollars d'accumuler d'argent privé des entreprises. Puis oui, clairement, les entreprises qui vont être intéressées vont pouvoir faire des dons. On veut que ça devienne un projet collectif, autant pour la population, les entreprises. Puis on souhaite vraiment, les bras sont encore ouverts pour avoir de l'argent du public, des gouvernements. Maintenant, ben, il va falloir que ça rentre rapidement parce que le projet va partir rapidement tout de suite après les élections. Soyez-en certains.
Est-ce que ça exclut aussi la communauté métropolitaine de Montréal? Elle avait un intérêt là-dedans au départ.
Non, mais ça, soyez assurés, comme membre du conseil d'administration de la CMM, on travaille fort pour aller chercher des subventions, que ce soit pour les sentiers, pour les chalets, les bâtiments. Donc, on y travaille ardemment avec la CMM.
À court terme, là, qu'est-ce qui se passe là, sur le site?
À court terme, le site est protégé. Et deuxième chose, ben on est en plan, la ville de Mascouche a fait des grands gestes. On a embauché une personne technique au niveau des chalets, des bâtiments, puis une personne technique pour nos sentiers. Deux personnes qui étaient en interne, mais qu'on a dégagées pour pouvoir permettre de travailler sur ce projet-là.
Est-ce que le développement ou les échéanciers seront fonction des sommes d'argent amassées pour justement faire avancer les travaux?
Ben oui et non, c'est plus... Tu sais, je veux dire, un coup qu'on dit qu'on le prend à l'interne, c'est important aussi de vous rappeler que la ville de Mascouche a fait vraiment preuve de stratégie financière. On a mis dans nos surplus, ben, on a un fonds dédié de 5 millions de dollars. Donc, tu sais, je pense qu'on a été responsable dans nos façons de faire, puis on a mis de côté, vu que c'est pas un projet récurrent, mais que ça va être un projet d'une fois qu'on va faire ce projet-là. Donc, on a mis 5 millions de côté pour nous accompagner à faire le projet du domaine seigneurial. Donc, les prochaines étapes, là, ça va être vraiment les plaies de vie, mais on est vraiment en phase d'action là, avec ce projet. On a compris qu'on va le faire tout seul, malheureusement, mais on va le faire pour notre population.
Ça reste un beau projet, là. En vous entendre, on est très confiants.
Bien, ça reste un super de beau projet qui, cependant, j'aurais apprécié d'avoir l'aide des paliers supérieurs. Maintenant que c'est dit, vous avez raison de dire que ça va être un super de beau leg.
Voilà, c'était Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche, là, sur le fameux domaine seigneurial. Bon, malgré que le fédéral ni le provincial n'ont pas investi beaucoup, beaucoup là-dedans, ben, on va arriver quand même à faire quelque chose. Bon, il est 16h22, petit mot de circulation pour vous parler de la 40 Est. Juste avant la 640, on signale un accident impliquant trois véhicules. C'est à gauche, je vois que ça devient quand même plutôt lourd à partir de Charles de Gaulle. Ailleurs dans l'actualité, il y a le Parti libéral du Québec qui a réagi aujourd'hui à la volonté du gouvernement caquiste là, d'interdire les fameuses prières de rue. À sa première mêlée de presse à l'Assemblée nationale en tant que chef du Parti libéral, Pablo Rodriguez, qui a affirmé que la CAQ cherche seulement à détourner l'attention des Québécois, alors que les déboires s'accumulent pour le premier ministre François Legault.
C'est aussi une tentative claire de diversion. C'est une tentative de la diversion parce qu'aujourd'hui, en fait, regardez où nous sommes aujourd'hui. Vous avez le premier ministre qui va témoigner devant un énorme scandale. Vous avez 14 milliards de déficit. Vous avez des hôpitaux qui tiennent avec la broche. Vous avez une rentrée scolaire dans l'insécurité.
Ouais, puis il y en a une autre tentative de diversion aujourd'hui, il faut le rappeler, là, celle du gouvernement Legault là, qui a décidé de mettre un terme au projet Nordvolt. Tant qu'à moi, ça ressemble à vraiment un écran de fumée là, devant la commission là, qui se tient aujourd'hui, la commission Galland. On aura l'occasion d'ailleurs d'y revenir là, aux nouvelles dans les prochaines minutes avec Pierre Jubainville. Ottawa qui doit davantage miser sur sa souveraineté numérique, c'est ce que plaident de nombreux experts là, qui ont envoyé une lettre aujourd'hui au premier ministre Mark Carney. Tant qu'à moi, il est vraiment, vraiment, vraiment trop tard. Ça aurait dû se faire à la fin des années 90, début des années 2000. À cette époque-là, c'est le CRTC, évidemment, qui gère les communications au Canada. Le CRTC ne voulait pas toucher à Internet dans le temps, mais là, je vous dis qu'il est pas mal trop tard. Mais en tout cas, on affirme que le gouvernement fédéral a raté l'occasion dans les dernières années de devenir un chef de file en innovation de politique numérique. Il y a une quarantaine d'organisations et d'experts qui souligne que la souveraineté numérique est pourtant un aspect clé dans la volonté du Canada de se protéger là, face aux menaces de l'administration Trump, notamment la volonté de Trump là, de faire du Canada un 51e État américain. Et ces gens-là réclament notamment qu'Ottawa réintègre sa taxe sur les services numériques et adopte de la réglementation qui entoure l'intelligence artificielle. Ça risque d'être très difficile. Les pluies diluviennes qui sont survenues entre le 13 et le 14 juillet au Québec ont causé près de 120 millions de dollars de dommages en assurance. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le Bureau d'assurance du Canada, le BAC, et depuis le début de l'année. On dit que les différents événements météo ont causé pour plus de 1,6 milliard en pertes assurées. Le BAC qui appelle les gouvernements à mieux protéger la population contre les catastrophes naturelles, notamment en interdisant la construction d'habitations et d'entreprises là, dans des zones à risque d'inondation ou de feux de forêt. On sait que l'érosion des berges du Saint-Laurent est souvent en cause aussi dans tout ça. Et puis, ben, souvent, ce sont des résidences qui sont là depuis X nombre d'années, depuis même des générations. Bureau qui affirme également là, qu'un organisme fédéral de coordination pour encadrer la préparation aux situations d'urgence là, est nécessaire. Et puis, même si l'été n'est pas encore fini, il y a le Bureau de la concurrence qui invite les Canadiens à être à l'affût des pratiques sournoises. Lorsque vient le temps là, de conclure un contrat de déneigement, oui, ça vient, ça s'en vient bientôt. Je pense que les gens ont commencé à regarder pour leur déneigement cet hiver. Il y a le bureau par communiqué là, qui a souligné aujourd'hui que certaines entreprises concluent des accords avec leurs concurrents pour limiter les choix et augmenter les prix, pratique qui est complètement illégale. Et les employés des entreprises qui sont témoins de ces accords qui sont anticoncurrentiels là, sont d'ailleurs invités à dénoncer anonymement les comportements de leurs employeurs. Scène internationale maintenant. En France, il y a au moins 5 personnes qui ont été poignardées par un individu au centre-ville de Marseille en plein après-midi. Le suspect qui a été abattu par les policiers. Au moins une victime se trouverait dans un état critique. L'homme se serait présenté armé avec 2 couteaux et une matraque dans un hôtel où il venait d'être expulsé. Il s'en serait pris à son colocataire de chambre, également au gérant de l'hôtel et au fils du gérant avant de poursuivre là, ses attaques à l'extérieur. Et puis en terminant rapidement, scène scientifique, il y a l'Université Laval qui vient de dépenser 261 000 $ pour faire l'acquisition de 13 singes en provenance d'un laboratoire américain. Journal de Québec qui précise que les macaques rhésus sont vivants, en bonne santé, vont servir à faire des recherches sur le traitement de maladies neurologiques comme le Parkinson, la dépression également, l'épilepsie. Les installations sont accréditées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui, elle, atteste que toutes les procédures impliquant des animaux le respectent, les normes éthiques également, que le meilleur des pratiques en matière de bien-être animal là, est respecté. Il est 16h28.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La 40 Est pour Charles de Gaulle, là, ça se complique. Je vous en parlais un petit peu plus tôt, l'accident impliquant 3 véhicules juste avant la 640 à gauche, ce qui fait que déjà, ça refoule depuis le boulevard du Tricentenaire à Montréal. C'est lourd présentement sur Charles de Gaulle et presque jusqu'à la 640. Passer la 640, quand même pas si mal, mais je regarde dans Repentigny, là, c'est assez dense entre le boulevard Brien et la rue Valmont. Pont-le-Gardeur, de ce côté-là, ça va bien à l'approche, autant par Notre-Dame que par Sherbrooke. 25 Nord, c'est dense depuis le pont payant de la 25, là, et ce, jusqu'à la hauteur de la pesée routière, même jusqu'au boulevard des Mille-Îles, là, je vous dirais, là, du côté de Laval. Secteur Terrebonne, ça va bien. Pont Sophie-Masson, on circule sans problème. Et finalement, autoroute 640, pas si mal dans les deux directions, entre la 25 et la 40. Les nouvelles dans un moment avec Pierre Jubinville.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte?
Ils ont joué et gagné au Super Radio Bingo le dimanche 31 août, remportent 200 $ avec la ligne des G. Nathalie Gervais de Saint-Alexis-des-Monts, une carte achetée au dépanneur Beaussoir. Mario Leblanc de Sainte-Julienne qui s'est procuré sa carte chanceuse au dépanneur Miguet de Saint-Jacques-de-Montcalm. Roland de Picard de Sorel-Tracy gagne 4000 $ avec sa carte pleine, achetée au dépanneur Guertin de Sorel-Tracy. Quant à la deuxième chance, 600 $ elle a été partagée en trois. Dany Desrosiers de l'Assomption gagne 200 $ avec une carte achetée au dépanneur Relie. Louise Florent de Sainte-Julienne remporte aussi 200 $ une carte achetée au Bonissoir Ultramar. Et quant à Denise Levac de Sainte-Émilie, grâce à sa carte achetée au dépanneur du Centre, elle aussi, elle met la main sur 200 $ tous les dimanches matins à 10h05. Gagnez gros dans le Super Radio Bingo de CFNJ. 5000 $ à gagner avec les trois jeux. Les cartes sont en vente au coût de 8 $ pour une feuille de 4. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ, section Super Radio Bingo. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier, Proprio Direct.
Acheter local, c'est plus important que jamais. Pour trouver les commerces de ta région, va sur notreentourage.ca et ajoute-le à tes favoris. C'est rapide, simple, 100% local. Regarde aussi ton répertoire reçu par la Poste.
À Télé-Québec, le mercredi 20h, une époque formidable, animée par Stéphane Bureau.
Je vous propose une question audacieuse.
Nous utilisons quotidiennement l'intelligence artificielle. Mais qui en sort vraiment gagnant?
Déjà, je sens que ça vous parle.
Et bye-bye les médias traditionnels, bonjour les médias sociaux. Même des journalistes quittent les grands réseaux sociaux pour se joindre aux plateformes numériques.
Ça fait beaucoup de gens qui sont intéressés, j'adore ça.
Et vous, où vous informez-vous? Allez au-delà des préjugés, avec une époque formidable, mercredi 20h à Télé-Québec.
Il est 16h31, c'est un plaisir de retrouver le collègue Pierre Jubainville aux nouvelles. T'as passé un bel été, Pierre?
Un très bel été.
Oui, bon.
Il fait tellement beau et chaud.
Il a l'air vraiment en forme en plus. Pierre, oui. Dans l'actualité, autour de François Legault, de témoigner aujourd'hui devant la commission Galant sur le fameux fiasco de la SAC.
Oui, son témoignage n'a pas causé vraiment de surprise. Là, il a maintenu sa position. Il n'était pas au courant. En fait, on l'a mis au courant le 25 février seulement. Dernier, donc en 2025.
C'est ce qu'il raconte, oui.
Et pourtant, le scandale a commencé à éclater en 2023. On écoute Philippe Bonneville.
François Legault jure qu'il ne savait absolument rien du budget de la transformation numérique de la SAAC et de ses dépassements de coûts avant la publication du rapport dévastateur de la VG.
Il n'y a pas personne qui m'a parlé de ça avant février 2025.
Cependant, avec ce qu'il sait aujourd'hui, il est clair, selon le premier ministre, qu'il aurait dû être informé de la situation il y a fort longtemps, ajoutant que ses ministres Geneviève Guilbeault et François Bonnardel auraient assurément pu poser davantage de questions. Il se porte tout de même à leur défense.
Il y avait une partie de l'information, mais il n'y avait pas toute l'information.
Ceux qui doivent principalement être blâmés, selon François Legault, ce sont les dirigeants de la Société de l'assurance automobile.
Pour moi, l'essentiel du problème vient des dirigeants de la SAC.
Philippe Bonneville, Cogeco Nouvelles, Montréal.
Et là, dites-vous que autant la coalition Avenir Québec que tous les partis politiques sur la scène provinciale là, sont déjà en pré-campagne électorale pour l'an prochain.
Justement. Ouais. Et le Parti libéral, lui, réclame que la Société de l'assurance automobile soit placée en tutelle, mais par une firme indépendante. Le nouveau chef, Pablo Rodriguez, nous l'a expliqué.
Pas par le gouvernement, parce que ça serait aussi pire. Si elle doit être mise sur tutelle, et je pense que oui, honnêtement. Pas par le gouvernement, mais par une entité externe. Faudrait voir. Mais une chose est certaine, si vous délaissez le gouvernement, qui était extrêmement incompétent, prendre les rênes d'une société qui était incompétente, on n'est pas mieux.
Bon, maintenant, Québec qui coupe officiellement les ponts avec Northvolt.
Oui, et ça survient en plein milieu du témoignage de M. Legault.
Comme par hasard.
Et on a appris ça par voie de communiqué. C'est une pratique souvent pour éviter de braquer les projecteurs sur d'autres nouvelles.
Je le disais un petit peu plus tôt, écran de fumée.
Voilà. Ça. Alors, Christine Fréchette, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, estime que l'entreprise n'a pas présenté un plan satisfaisant. On a perdu beaucoup d'argent là-dedans.
Ah, oui.
510 millions, mais les investissements, on va tenter du côté du gouvernement, via les tribunaux, de récupérer l'argent. 510 millions, la perte nette pour l'instant est de 270 millions. Si on ajoute ça aux pertes de la SAC,
bonne on chance le milliard. Bonne chance pour rattraper tout.
Et il y a le promoteur immobilier, Luc Poirier, qu'on pourrait dire qu'il a fait la passe à l'époque, il avait vendu, lui, le terrain pour 240 millions de dollars en Montérégie, à Norfolk. Il affirme qu'il est prêt à le racheter au même prix.
Le 240 millions, là, c'est récupérable. La valeur est là, puis on les garantit. Donc, pourquoi que le gouvernement va vers les tribunaux, c'est juste le délai nécessaire pour reprendre le terrain, vu que Norval ne payera pas, etc. Donc, c'est une question de délai, mais tout devrait bien aller. Là. Il ne devrait pas avoir de problème de ce côté-là.
Avez-vous des problèmes lorsque vous téléphonez chez Revenu Canada, on vous fait poireauter en ligne souvent? Ben, semble-t-il qu'on répond à vraiment un faible pourcentage d'appels. On laisse les gens attendre.
5% seulement des appels sont retournés. Alors, le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, évidemment juge inacceptable les difficultés d'accès rencontrées par les Canadiens. Il donne 100 jours pour mettre en place un plan d'action et régler les problèmes. C'est une situation qui enrage le député bloquiste de Repentigny, Patrick Bonin, qui demande des comptes au gouvernement.
Et les conséquences, ben, elles sont bien réelles. Hein? Normalement, une déclaration d'impôt en ligne, ça peut être réglé en 2 semaines. Mais dès qu'un contribuable fait une objection, par exemple, s'il conteste une erreur de calcul de l'ARC, ben, les délais explosent. On parle de 5 mois pour une objection simple, 10 mois pour une moyenne, puis même jusqu'à 2 ans dans les cas complexes. Et pendant ce temps-là, ben, y a des familles qui attendent le remboursement de TPS pour payer les fournitures scolaires de leurs enfants.
On parle de plus en plus d'histoires inquiétantes, Pierre, liées à l'intelligence artificielle, et en voici une qui est vraiment triste.
Ouais, situation délicate, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle comme confident dans ce cas-ci comporte évidemment son lot de risques, et des experts appellent à beaucoup plus d'encadrement.
L'intelligence artificielle est devenue bien plus qu'un outil créatif de rédaction, alors que certaines personnes lient de véritables liens avec ces technologies. En juillet dernier, une Montréalaise de 24 ans s'est enlevée la vie alors qu'elle souffrait de problèmes de santé mentale et consultait régulièrement ChatGPT pour obtenir des conseils psychologiques. Un phénomène de plus en plus courant pour les personnes en souffrance, comme l'explique Christine Groux, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec.
Quand c'est gratuit, puis c'est accessible 24/24, puis qu'on a l'impression qu'on est à l'abri de tout regard, ça peut être attrayant.
Mais la pratique est dangereuse. L'assistant virtuel ne pouvant pas poser de diagnostic et prescrire un traitement.
Même s'ils peuvent simuler l'empathie, c'est pas nécessairement fait pour la complexité ou la nuance. Ça ne remplace pas le jugement clinique.
Les professionnels du domaine appellent les entreprises qui développent les intelligences artificielles à prendre des actions dès maintenant pour éviter de nouveaux drames. Hugo Larochelle est directeur de l'Institut Mila.
OpenAI, je pense, va répondre de ça, à expliquer qu'est-ce qu'ils font déjà, est-ce qu'ils en font assez.
Lucie Besrazac pour Cogeconov.
Et on a appris, Claude, il y a quelques minutes, que ChatGPT va instaurer un contrôle parental. Dans les mois à venir, les parents pourront lier leur compte avec celui de leur ado et contrôler la façon dont ChatGPT répond à leur adolescent.
J'espère bien.
Avec ses règles de comportement du modèle.
Il y a ça aussi, puis il y a le fait que tu peux faire tes devoirs même par ChatGPT.
J'ai testé. J'ai écrit de la belle poésie cet été.
On termine avec un kayakiste là qui était porté disparu hier et qui a été retrouvé.
Oui, disparu dans le fleuve Saint-Laurent à Verchères. Le service de police de l'Assomption-Saint-Sulpice a indiqué que le corps de la victime, André Léonard, 66 ans, a été donc retrouvé sur les berges de l'île Bouchard vers midi. Selon un proche, l'homme avait tenté de rejoindre en kayak une autre île dans le secteur.
Il a été retrouvé sans vie?
Sans vie, oui. Ouais. Est-ce que je ne l'ai pas dit? Hein? Porté disparu, oui, c'est très pertinent
de le mentionner. Malheureusement, triste, ça se termine tristement. Voilà. Merci, Pierre Jubainville. Bye bye. Il est 16h38.
Au 99.1 88.9 CFNJ, c'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 88.9.
Lanaudière PM politique fédérale.
Voilà l'annonce par Mark Carney de l'implantation à Calgary là, du bureau des grands projets, lequel va être dirigé là, par l'ex-grande patronne de Trans Mountain. Et hautement stratégique, il y a notre analyste politique, Mathieu Bélanger, à qui François Morin a parlé un peu plus tôt aujourd'hui, là, qui estime que le premier ministre Carney a voulu mettre un couvercle en fait sur la marmite de la grogne de l'Alberta là, contre Ottawa. On écoute cet entretien avec Mathieu Bélanger.
Puis c'est clair qu'il y a un message politique là-dedans qui est à l'effet de faire des clins d'œil aux provinces de l'Ouest et en Alberta en particulier, ne serait-ce qu'évidemment par le choix de Calgary pour endroit où créer ce bureau-là, qui est le cœur quand même de l'action politique de Mark Carney en termes là, de ce qu'il a promis durant la dernière campagne électorale, accélérer la réalisation de grands projets pour que l'économie canadienne soit plus forte, moins dépendante des États-Unis. Et alors qu'il y a un mouvement indépendantiste qui grandit un peu en Alberta, un peu parce que c'est toujours différent de ce qu'on connaît au Québec, où le mouvement est beaucoup plus implanté depuis beaucoup plus longtemps et pas suffisamment au goût du Parti québécois. Évidemment, ça demeure une minorité de Québécoises, de Québécois qui est plein d'indépendance au Québec, mais une minorité significative depuis des décennies. En Alberta, ça fluctue beaucoup, mais ces temps-ci, il y a une certaine remontée là du mouvement indépendantiste. Et on sent avec un gouvernement aussi, là, le gouvernement de Mme Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, qui est beaucoup plus jalouse de ses prérogatives là, comme province, plus prête à en découdre avec le gouvernement du Canada. C'était surtout vrai sous Justin Trudeau. Et là, ben Mark Carney, qui connaît bien l'Alberta aussi, justement veut réparer les ponts, éviter une crise d'unité nationale. Et semble-t-il, donc, manifestement, un des outils pour ça, c'est que le bureau soit créé en Alberta. Donc, ça envoie le signal que le gouvernement canadien se préoccupe de l'Ouest, se préoccupe de l'Alberta plus spécifiquement. Et avec cette nomination de Mme Dan Farrell, justement l'ancienne le PDG de Trans Mountain, ben c'est aussi d'envoyer le signal que le gouvernement de Mark Carney n'a pas une posture a priori contre le pétrole, mais souhaite quelqu'un qui connaît bien cette industrie-là, connaît bien le secteur de l'énergie de façon le plus globale, parce qu'elle a aussi été impliquée dans l'énergie éolienne par le passé. Et donc, on se détourne de la vision que Justin Trudeau avait par le passé d'être, surtout dans les dernières années, plus hostile, du point de vue de l'Alberta, en tout cas, aux énergies là de liées au pétrole, pour plutôt avoir un message plutôt favorable à première vue de cela. Mais évidemment, le grand défi va être les projets qui vont être retenus ou pas par ce bureau-là et par le gouvernement de Mark Carney.
Et faut-il le rappeler, le Bloc québécois est très frileux en regard des projets d'énergie fossile et il faudrait surtout pas que le gouvernement privilégie ce genre de projet.
Et ça semble pas être la volonté du gouvernement dans un jeu d'équilibrisme au même moment ou à peu près où il annonçait justement que ça serait à Calgary avec cette dame à sa tête que serait situé le bureau des grands projets, on annonçait notamment que un des projets qui serait priorisé serait le port à Montréal là, à contre-cœur. Donc, il y a une volonté, puis ça a été mentionné depuis la campagne électorale, finalement, que c'est pas juste la question du pétrole, c'est pas juste la question des énergies même, mais plusieurs autres choses qui peuvent être visées par le gouvernement de Mark Carney et ce bureau des grands projets. On connaît pas encore la liste, c'est ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. C'est là-dessus aussi que les critiques du Parti conservateur du Canada et de Pierre Poilievre en disant il faut pour que les projets démarrent, qu'ils démarrent justement. Et pour l'instant, on est encore en attente. On attend encore de savoir qu'est-ce qui va être priorisé par le gouvernement. Et donc, tout le monde peut se faire sa propre idée. Tout le monde peut dire, moi, j'espère que mon projet, notamment au niveau des premiers ministres des provinces et des territoires, j'espère que mon projet va être choisi. Mais on ne le sait pas encore. On ne sait pas encore l'impact environnemental que ça va avoir, parce qu'on entend déjà justement les groupes environnementalistes critiquer cette loi-là et maintenant ce bureau-là. Mais on est encore dans la spéculative, dans l'hypothétique. Mais ça risque de se concrétiser au cours des prochaines semaines.
Et il y a un projet quand même qui est sur la table de dessin du gouvernement du Québec. C'est la création ou en tout cas le financement là, d'une ligne à haute tension là, pour permettre de vendre l'énergie du Québec aux autres provinces.
Toutes les provinces ont leur propre projet. Évidemment, au niveau du Québec, on pense beaucoup en termes d'hydroélectricité, pouvoir vendre justement l'électricité. il y a des négociations qui vont se faire assurément entre le Québec qui veut pouvoir vendre son hydroélectricité, entre l'Alberta qui veut pouvoir vendre son pétrole. Qu'est-ce que tout cela va donner au final avec la voix des Autochtones qu'il faut entendre aussi, avec les enjeux environnementaux, avec les enjeux économiques. Au premier chef, on parle d'exporter du pétrole, par exemple, pour d'autres provinces, mais y a-t-il des clients à l'autre bout là, de la ligne alors que l'Europe tente de s'éloigner de plus en plus de sa dépendance au pétrole? Ben, c'est pour ça que je mentionnais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'attentes également envers ce projet-là. Mais pour l'instant, c'est très difficile de dire où est-ce qu'on s'en va exactement, au-delà des gestes politiques, comme celui-là de situer le bureau à Calgary en nommant quelqu'un qui était lié à l'énergie pétrolière avant.
En terminant, il faut quand même dire que François Legault joue gros et qu'il a certainement hâte d'avoir des bonnes nouvelles pour redorer son blason politique.
François Legault a toujours dit que sa priorité numéro un, c'était l'économie, avec l'éducation pas loin derrière, d'après sa affirmation lors des récentes campagnes électorales, qu'il souhaite que l'économie québécoise soit développée, qu'on soit plus proche de l'Ontario notamment. Et donc, ben, pour ça, ça prend des projets, là, tenter là, de développer l'économie québécoise avec la filière batterie, avec un succès, disons, très relatif. Donc, s'il peut y avoir d'autres bonnes nouvelles d'ici l'an prochain, avec les élections qui s'en viennent l'an prochain, c'est sûr qu'il ne dirait pas non, François Legault. Reste à voir qu'est-ce qui va arriver, comment il va être capable de négocier avec le gouvernement du Canada, le bureau des grands projets, évidemment, les autres provinces, les peuples autochtones, ainsi de suite, tout le monde là, qui peut être impliqué dans de tels projets. On a souvent de l'appétit, on veut beaucoup de choses, on peut saliver en disant genre pouvoir réaliser plein de choses, mais dans ce qui se produit au final, ça reste à voir, mais il y a un délai là, d'un an pour mettre des choses sur la table qui puissent peut-être renverser la vapeur électorale pour François Legault.
Bon, voilà, c'était notre analyste politique Mathieu Bélanger. On parlait entre autres de cette implantation à Calgary là, du bureau des grands projets avec Mark Carney. Il est 16h46. Dans un moment, Jacques Plante.
La route, la route, la route, l'écran, la route. L'écran, la route, la route, la route, la route, l'écran. Le piéton qui traverse, le pare-brise qui craque, le piéton à terre, le piéton à terre, le piéton à terre. Vos yeux ne voient qu'une chose à la fois. Si c'est l'écran, ce n'est pas la route. Garder son attention sur la route, c'est juste la base. Un message du gouvernement du Québec.
Du lundi au vendredi, entre 11h et 14h, la Fromagerie Victoria vous propose un délicieux menu midi. Soupe, repas et breuvages à partir de 14$. Rapide et abordable, la solution pour vos dîners pressés. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury, à Berthierville.
Ne manquez pas le Waro Fest avec Bernard Adamus. Une expérience musicale unique dans les dunes du parc régional de la forêt Waro pour une soirée que vous n'oublierez jamais. Pour le même prix, vous avez accès à la forêt Waro pour la journée et au camping sous les étoiles. Achetez vos billets maintenant au parcregionaux.org/événements avec un S et vivez la magie du Waro Fest avec Bernard Adamus.
Le Waro Fest avec Bernard Adamus, ce samedi 6 septembre.
99.1 88.9 CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
T'as passé de bonnes vacances, Jacques?
Ouais, puis là, il faut revenir. Salut Claude, salut tout le monde. c'est ça. Je reprends vraiment le collier officiellement aujourd'hui avec toi, là.
On va parler transport aujourd'hui et des routes, nos routes. L'état pitoyable des routes dans la Naudière. Et moi, je l'ai expérimenté cet été en me rendant au Powwow à Manawan. Là, c'est 86 kilomètres de Garnotte au nord de Saint-Michel-des-Saints.
C'est un périple.
Ouais. C'est une véritable planche à laver. Essayez pas d'aller là avec une voiture. C'est pas une bonne idée. Ça prend soit un 4x4 ou un pick-up. Là. Et ça a aucun sens. Et là, ça relève pas du ministère des Transports. Là. C'est le ministère des Ressources naturelles, de la Fonte, parce que c'est un chemin forestier. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire quelque chose pour le chemin de Manawan, là, mais ça a vraiment aucun sens. Et t'arrives là-bas, tout le monde à Manawan, la plupart des gens ont leur pare-brise complètement défoncé par des cailloux qu'ils reçoivent. Puis, en tout cas.
Mais tu sais, souvent, quand on, notamment dans ce dossier-là comme tel, on entendait juste avant qu'on aille en onde, puis je l'ai souligné à Claude en blague, il y avait un message. La Société des Transports. Là.
La SAQ.
Ouais. La SAQ. Hein, on en parle beaucoup de la SAQ, hein, ça clique avec eux autres. Souviens-toi, puis là, t'es plus jeune que moi, il y avait une publicité à l'époque qui venait du MTQ de mémoire, et c'était « La route vous parle ».
Oui, oui, oui.
Là, maintenant, quand on se promène au Québec, c'est nous autres qui parlent la route,
oui,
règle générale.
Et hein? Ce sont des sacres qui sortent.
Et c'est pas souvent des beaux mots.
Ouais. Parce que vous pouvez souvent briser vos essieux. Puis bon, on a beaucoup parlé en fin de semaine dans l'actualité de l'état des routes dans la Naudière. On en parlait également la semaine passée avec le cas de l'autoroute 40. Il y a de nombreux cas du côté de Berthierville, La Valtrie, La Noraie, où ça fait dur comme ça se peut pas sur le bord du fleuve. Qu'est-ce qu'on attend pour investir là, dans nos routes? C'est où est-ce qu'il y a une job à quelque part qui a été mal faite il y a une couple d'années, ce qui fait qu'on se retrouve avec des routes comme ça?
Ben, ce que tu évoques, c'est effectivement il y a quelques années, et je pense que ça s'est fait sur deux gouvernements, où on a levé le pied dans les budgets pour les entretiens de la route et des infrastructures. Faut pas oublier les ponts aussi.
Oui,
là,
oui, oui.
Hein? Je me souviens très bien à cette époque-là, puis comme je vous dis, là, il y a quelques années, on avait questionné les journalistes, des ingénieurs qui avaient dit « Faut pas qu'ils perdent la balle au bon parce qu'ils vont être submergés tantôt. » Et
ben,
dans ces dernières années, c'est un peu ce qu'on vit. Là, on est à l'époque des cônes oranges.
Oui.
Hein? Le gars ou la fille là, qui a inventé les cônes oranges, lui, il fait de l'argent à la mouche parce qu'il y en a partout.
Ouais.
Ça réduit la circulation, ça augmente le taux de nervosité.
Là, t'es allé chercher, Jacques, le palmarès des pires routes dans la Naudière.
À chaque année, le CAA fait un bilan à la grandeur du Québec. Dans l'Outaouais, là, puis dans les Laurentides, c'est magané pas à peu près.
Ouais.
Mais moi, je suis allé externe. Le palmarès, je vous le dis, 2025, concernant la Naudière. Celle qui est en pôle position, c'est l'autoroute 640, c'est du ministère des Transports, à la hauteur de Charlemagne et Terrebonne.
Ouais.
Alors, les gens qui roulent dans ce coin-là vont se comprendre. On a en deuxième place le rang Saint-Charles, ça c'est du côté de Saint-Thomas, et c'est pas indiqué que c'est au ministère des Transports, donc c'est au niveau municipal.
Ouais.
On a le rang double à Saint-Lin-Laurentide. On a la 348, ministère des Transports, de Saint-Didas.
À Saint-Didas.
Et ça, j'en parlais au lancement vendredi avec notre collègue des Nouvelles, François.
Donc, ça voudrait dire qu'à Saint-Didas, c'est encore pire que dans le sud?
Fait le bout. Là, 348 Saint-Didas en direction de Louisville. Là.
Ah oui, oui, oui.
Là, tu peux mettre un 5 gallons dans ton char en arrière avec un couvercle, tu mets de l'eau, tu mets un peu de savon, tu mets du linge, tu fais une brosse en descendant. Ça, c'est sûr.
Ça n'a pas d'allure.
La rue Desjardins du côté de Manneville, l'autoroute 40 à Berthierville, t'en faisais allusion tantôt, la route 131 à Saint-Thomas. Là, je comprends pas, 131 Saint-Thomas, là, mais ça vient du ministère. La 640S, voie de service à la hauteur de Terrebonne, le boulevard Pont-Briand du côté de Rawdon, le chemin de la Rivière-Rouge à Crabtree, le pont Jean-Baptiste-Legardeur du côté de Repentigny, la 347 à Saint-Côme et la 341 à Rawdon. Ça, c'est le palmarès du CAA Québec, l'édition 2025, des routes qui sont le plus... Je vais dire ça, là, c'est pas québécois, mais oui, c'est québécois, magané.
Quand tu parlais de 131 Saint-Thomas, je crois qu'il y a un petit bout de la 131 là, qui touche Saint-Thomas. Là,
OK, là, tu mets clair, parce que pour moi, Saint-Thomas, c'est 158.
Oui, oui, il y a un petit bout là, dans le secteur justement de la 158 ou un peu passé à 158. D'après moi, là, c'est un petit bout qui touche à peine Saint-Thomas. Ben là, c'est ça. C'est pour vous dire que les routes sont vraiment dans un état pitoyable et, faut le mentionner, il y aura en fin de semaine, samedi, une chaîne humaine organisée par le maire André Villeneuve de la
Val-d'Isère.
À la Noraie. Oui, à la Noraie. Alors, pour dénoncer ce qu'il considère là, comme étant un endroit trop dangereux pour le transport actif, c'est-à-dire évidemment cette fameuse route 138 qui fait partie, imagine-toi, de la fameuse route verte au Québec.
Oui, c'est ça. Puis André
samedi,
a fait...
Ça se passe samedi, ça.
André a fait, M. Villeneuve a fait des vidéos sur Facebook, là, j'ai vu ça. Il nous montrait les ornières. Alors, quand il pleut, évidemment, il se ramasse de l'eau. Et imaginez, avec ce qui est arrivé sur la 40, là, dans le détour qu'on faisait, là, les gens se tapaient ça, ce bout de chemin-là.
Oui, c'est ça. C'est aussi pire.
Ça,
c'est aussi pire en prenant le chemin du roi. Là.
Exactement.
Donc, c'est samedi, je vous le rappelle, cette chaîne humaine qui est organisée là, par le maire de la Noraie, André Villeneuve. Vous aurez probablement des détails sur le site web de la ville de la Noraie. Merci Jacques Plante pour ce retour.
On va se souhaiter pour la nouvelle saison, ben bonne route.
Et pas mal de politique, j'ai l'impression.
Ah oui, c'est, on manquera pas de sujet. Salut.
Salut Jacques. Je salue et remercie nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui. Marie-Pierre Poulin, Régent Turgeon, Pierre Jubinville, Mathieu Bélanger, ainsi que Jacques Plante que vous venez d'entendre. Ici Claude Fournel, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Manquez pas dans un tout petit moment La vie dans l'Anaudière avec Jean Desrochers du Crapaud de Saint-Félix-de-Valois. Et dans un tout petit moment aussi de l'autre côté de l'actualité, là, il y aura le 5 à 7 trad de Nicolas Bellemare. Passez une belle soirée. On se retrouve demain, 16h, pour un autre L'Anaudière PM.